Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Nous sommes le vendredi 4 février 2022. C'est le moment du journal en langue française à la radio Nzamba Gateka Kawe. Mais tout d'abord, les principaux titres. Les militaires burundais continuent d'entrer en République démocratique du Congo où ils poursuivraient les rebelles burundais qui sont entrés par le lac Tanganyika. Et les rondes nocturnes menées par les Imbonerakure sont signalées au sud de la capitale Bujumbura. Ils arrêtent tout passant, ce qui effraie la population. Les rescapés de l'incendie qui a ravagé la prison de Gitega vivent dans des conditions déplorables. La CAT Burundi déplore ce traitement inhumain. Et voilà pour le sommaire. À tous et à toutes, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons notre journal par le dossier insécurité. Un bataillon des militaires burundais a traversé le lac Tanganyika vers la République démocratique du Congo au sud Kivu, dans le territoire d'Ofizi, proviennent de la 3e et de la 4e division de l'armée burundaise. Des sources au centre de l'armée révèlent qu'ils ont embarqué à partir des rives du lac Tanganyika à Gitaza et à Rutunga à partir de ce lundi de cette semaine. Plus de détails avec Jean-Marie Ndabashinze.
Selon les sources de la radio Nzamba à Gateka Kawe, au sein de l'armée burundaise, ces militaires ont traversé le lac Tanganyika en deux étapes. La première équipe a traversé dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2022. La seconde équipe est partie la nuit suivante, du mardi à mercredi. Les deux équipes ont été embarquées sur le bateau des forces marines et débarquées dans la localité de Kazimia, au sud-est de la presqu'île du Bouali. Les mêmes sources indiquent en outre que le nombre de militaires qui ont traversé le lac Tanganyika serait légèrement supérieur à 600 hommes avec armes et munitions. Il s'agit d'hommes de 310e et 320e brigades de la 3e division et de 410e et 420e brigades de la 4e division de l'armée burundaise, précisent les mêmes sources. La causerie morale très déploiement a été animée par le colonel Jekonias Nihorimbere, commandant de la 110e brigade. La logistique du transport maritime a été organisée par le général de brigade Vena Bibonimana, surnommé Gatovi, commandant des forces marines et de l'armée burundaise. Arrivé à Kazimia, les mêmes sources révèlent que les militaires ont reçu l'ordre d'escarder les montagnes de Fizi pour aller couper la retraite, déloger et traquer les rebelles burundais des FNR d'Aloïse Nzabamema et ceux d'Irene Tabara et les alliés. Mercredi matin, les habitants de Kazimia disent les avoir vus en colonne vers les montagnes de Fizi. Néanmoins, le gouvernement burundais nie toujours la présence de ses troupes en République démocratique du Congo. Il l'a fait notamment à travers la récente déclaration du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alain Tribert Mutabazi. De l'autre côté, en République démocratique du Congo, il ne cesse de s'insurger contre les abus et exactions des militaires et des Imbonerakure dont sont victimes des Congolais. Ce mercredi, un député national a adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour lui demander d'exiger la cessation des hostilités dont les forces armées burundaises et des Imbonerakure sont les principaux acteurs dans le site Kivu et de sanctionner les commanditaires de ces actes.
Merci Jean-Marie Ndabashinze pour ces détails. Le ministre de la Défense devrait être interrogé sur la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais. Propos de Vita Nshimirimana du FORSC qui s'inquiète sur la vie de ces Burundais qui meurent dans des conditions floues. Écoutez Vita Nshimirimana.
À ce jour, nous sommes également fondés à nous poser des questions concernant la responsabilité des crimes qui seront occasionnés et à l'occasion de ces affrontements sur le territoire de la République démocratique du Congo, parce que chaque fois qu'il y a une guerre, quand il y a des affrontements entre les armées, il y a des pertes en vies humaines, il y a des crimes aussi qui sont commis, notamment à l'endroit des civils qui ne participent pas au combat. et à ce niveau, il peut y avoir des meurtres, des assassinats, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres crimes de droit international. Et chaque fois qu'il y a des crimes, il doit y avoir une responsabilité individuelle ou étatique. Et quand il y a une responsabilité étatique qui est engagée, il revient à l'État qui est responsable de ces atrocités d'en répondre, notamment sur le plan pénal, mais aussi sur le plan de réparation. Donc, il revient à plusieurs groupes de personnes ou d'institutions à poser la question pour savoir la vérité et pour empêcher que l'État du Burundi continue à opérer de cette manière. Il en est de la responsabilité des députés qui sont les représentants du peuple, et comme l'a fait le député congolais qui a déjà saisi les Nations Unies pour les crimes commis sur son territoire. Les membres du Parlement burundais devraient aujourd'hui demander au gouvernement du Burundi, au président de la République, au ministre de la Défense, au chef de la Défense nationale, d'expliquer les raisons de la présence de l'armée burundaise à la République démocratique du Congo.
Certains habitants du sud de la ville de Bujumbura vivent dans une peur panique. C'est suite à des patrouilles nocturnes organisées par des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Ces jeunes s'arrogent le droit d'arrêter les passants et paralysent certaines activités. Ils demandent aux autorités de mettre fin à ces patrouilles car ils ne cessent de dire que la paix et la sécurité règnent dans le pays. Les détails avec Georges Niméen.
Selon les informations recueillies par la radio Inzamba, ces jeunes Imbonerakure qui se mettent dans les différentes rues de la zone Musaga, Kanyosha et dans le quartier Kibenga de la zone Kinindo sont essentiellement composés par des jeunes Imbonerakure qui travaillent dans les ménages. Ces jeunes exigent des documents d'identification à tout passant et celui qui ne les a pas, il lui inflige une amende ou alors le dépôt de tout ce qui est en sa possession à lui estime l'ordre de garder la bouche cousue. Ce n'est pas tout. Ces jeunes s'arrogent le droit de fermer les boutiques et cabarets se trouvant dans les quartiers du sud de la capitale économique Bujumbura. En zone Musaga, la situation semble beaucoup plus compliquée. Certains jeunes affirment qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble au-delà de trois de peur d'être arrêtés par les jeunes Imbonerakure les accusant à tort de vouloir perturber la sécurité. Certains parmi eux ont déjà écopé des emprisonnements et des amendes allant jusqu'à 50 000 francs bou. Les habitants de ces quartiers du site demandent à ce que la sécurité soit assurée par les forces de défense et de sécurité, les seuls qui en ont les compétences. Certains administratifs, à la base, justifient ces patrouilles nocturnes en disant que ces jeunes Imbonerakure font partie du comité mixte de sécurité et que les réunions seront organisées à leur intention pour les ramener à l'ordre. Ces habitants regrettent que le soi-disant comité mixte de sécurité n'est composé que des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et ceux qui lui sont proches.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Droits de l'homme à présent, les prisonniers qui ont survécu dans l'incendie qui a ravagé la prison de Gitega vivent dans des conditions déplorables, explique Jean-Claude Niboulmoussi, chargé du volet juridique au sein de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Katbouni. Dans son rapport sur les conditions des prisonniers dans le milieu carcéral du mois de janvier, la Katbouni dénonce le traitement inhumain que subissent ces prisonniers. On écoute Jean-Claude Niboulmoussi.
L'incendie qui a fortement endommagé les principaux blocs de la prison qui abritait une grande partie des prisonniers. Et entre-temps, les prisonniers ont été installés dans 33 tonnelles pouvant abriter chacune 16 détenus. Alors qu'une tonnelle avait été conçue normalement pour abriter 4 détenus. Et pendant cette période pluvieuse, les ondes de pluie inondent les tonnelles et les matériels de couchage sont mouillés de temps en temps. Et les prisonniers se retrouvent en plein air sans aucune protection. protection contre le froid, ce qui constitue un risque évident de cause de diverses maladies. Et d'ailleurs, certains prisonniers préfèrent dormir dans les hangars en reconstruction au lieu de passer la nuit dans les tentes inondées. Akat Burundi regrette le mépris aussi envers les victimes affichées par la direction de la prison de Gitega lorsqu'elle refuse à leur famille de rendre visite à leurs proches, surtout les prisonniers politiques, arguant que c'est dans l'objectif d'éviter la propagation de COVID-19. Alors que le personnel pénitentiaire sort et entre dans la prison sans observer aucune mesure barrière à la pandémie. Mais ce qui nous préoccupe encore plus, ce sont les familles des prisonniers condamnés pour participation au putsch manqué du 13 mai 2015. Pour cela, c'est un traitement discriminatoire que l'on constate lors des visites de leurs proches. En effet, ces familles n'ont plus le droit de connaître la situation de leurs proches en détention, étant donné qu'elles ne peuvent pas les voir même à distance au moment où les autres prisonniers sont autorisés de se montrer à leur famille lorsque celles-ci viennent se rassurer que leurs proches sont encore en vie. Mais comme les détenus ne sont pas autorisés à posséder des téléphones dans la prison, la communication avec la famille devient totalement impossible. Il s'agit donc d'une violation flagrante de la loi par des textes aussi internationaux agissant les établissements pénitentiaires.
Et quittons le centre du pays pour nous rendre au sud du Burundi où l'on nous signale une pénurie de l'eau potable sur les collines de la zone de Mukungu, commune Nyanzalac, en province de Makamba. Les habitants sont obligés d'utiliser des eaux du lac Tanganyika pour vaquer à leurs activités quotidiennes. En plus, ils boivent ces eaux malgré leur insalubrité, ce qui leur fait peur, craignant d'attraper des maladies dites des mains sales. Ils demandent à l'administration de résoudre le problème avant que la situation ne s'aggrave. Les détails avec Benny Axelakana.
Les collines les plus vulnérables sont Ruvindi et Mvugo. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, les tuyaux de la régie des eaux ont été cassés. Les habitants de ces collines disent avoir des difficultés pour trouver de l'eau potable à utiliser dans la cuisson ou pour boire. Ils doivent effectuer une distance d'entre 8 et 10 km pour pouvoir avoir de l'eau. Les habitants craignent d'être attaqués par des maladies des mains sales suite à cette pénurie de l'eau potable.
La situation n'est pas du tout facile parce que depuis la montée des eaux du lac Tanganyika, une montée qui a détruit certaines installations dans les tuyaux d'eau, aucune activité n'a été faite par la commune ou par la régie des eaux pour remplacer le matériel abîmé. Nous n'avons pas d'eau. Seuls ceux qui ont des bicyclettes peuvent s'en procurer à partir des montagnes situées entre 8 et 10 km. C'est très loin. Nous sommes obligés d'utiliser les eaux du lac Tanganyika. Nous nous en servons pour cuire, faire la vaisselle, ainsi que d'autres activités qui nécessitent l'utilisation de l'eau. C'est vraiment un grand problème.
Les habitants de ces localités demandent à l'autorité communale de faire le tout possible afin de leur donner de l'eau potable pour l'intérêt de leur santé.
Nous demandons à la commune de faire tout son possible pour nous faire parvenir de l'eau potable, pour nous protéger contre les maladies des mains sales, surtout le choléra et la dysenterie. Comme ça, la commune aura rendu un grand service.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone Goretti Ladukunda, administrateur de la commune Nyanzalake, pour qu'elle dise ce qu'ils envisagent faire pour résoudre le problème.
Merci Benny Axel Kana pour ces précisions. Et la cohésion nationale demeure la fondation principale pour arriver au développement durable au Burundi. Faustin Dikoumana, président de l'ONG Parsem, l'a annoncé ce vendredi à Bujumbura à la veille de la célébration du 30e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Une bonne gouvernance et une justice pour tous doivent impérativement accompagner cette cohésion nationale. Écoutez Faustin Dikoumana.
Parsem propose que pour renforcer la cohésion nationale, il faut d'abord que la fondation de la cohésion soit forte. Et la fondation serait basée sur les acquis et les atouts dont dispose le pays. Il y a que le Burundi est une nation multiséculaire qui n'a pas été créée artificiellement par les colonisateurs. Et cet accord a été voulu par notre accord très important, l'accord d'Arusha. Nous avons deux zéros de référence, le prince Rwagasore, le président américain, la culture politique qui a caractérisé les discours et les actions pouvaient nous servir d'exemple. Et aussi le conseil de Ushinganahe qui devrait guider la cohésion. Au niveau des piliers, c'est la grande partie de la bonne gouvernance. C'est d'abord la bonne gouvernance électorale pour qu'au Burundi n'y ait plus de prétexte de contestation électorale qui pourrait avoir la base de la cassure au niveau et de la cohésion. Il faut une administration professionnelle qui sait les intérêts dans l'administration des populations et nos services. Et notamment par notre poste politique, notre poste technique, le principe de déclaration des biens, la gestion des incompatibilités, et l'égalité devant tous à l'accès aux services de l'administration. Et troisième pilier, c'est la justice. La justice, dans le contexte de la commission de réconciliation, pour rompre avec un passé sombre et lourd, il y a la justice qui doit être en arbitre. Et aujourd'hui, une justice qui n'est pas la justice du vainqueur, une justice qui peut protéger les forts et les faibles. Quatrième pilier, c'est l'action civique dynamique, qu'on ne sait pas une presse libre, une société dynamique, des citoyens qui savent exercer les droits, la redevabilité vis-à-vis des dirigeants. Il y a la libre entreprise, aussi des secteurs privés, sans entrave. Là, c'est quatrième pilier. Au niveau de la fatigue, alors, c'est la vision du développement. Pas ça, c'est contre la pauvreté aussi, constitue le rempart au niveau du renforcement de la cohésion nationale. Il faut être conscient de nos potentialités, se mettre de décourage, voir comment vraiment améliorer la situation. Et au niveau économique, ça pourrait aussi soutenir la cohésion nationale. Et comme cette année est cruciale, alors le débat en forme sur la cohésion nationale et le développement, la cohésion nationale et la gouvernance serait très important pour que les 60 ans d'indépendance nous permettent à dire au revoir à ces crises répétitives qui ont amené notre pays.
Et rappelons que la charte de l'unité nationale a été votée le 5 février 1991. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à la rédaction de la radio Inzamba. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À la présentation, vous étiez avec Alice Akimana. Au revoir.